Alors nous sommes vraiment très contents de vous voir tous. C'est un sujet fort et ça nous touche beaucoup de vous voir là. Je m'appelle Anne, je suis la moitié de mon doux et tendre Alexis. Voilà, ouais, hein, super. On est mariés depuis... femme, battez vos maris. On est mariés depuis 32 ans, on a 4 enfants et on s'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et merci Seigneur, la vie est bonne. Ce que tu nous donnes, c'est bon. Voilà. Et ça n'a pas commencé tout rose, hein. Il y a des épreuves dans la vie de chacun. Vous allez le voir au cours de ce parcours. Mais aujourd'hui, ben, on peut vraiment dire merci Seigneur parce que tu as su nous guider avec amour. Voilà. Et nous sommes accompagnés par Véronique et Arnaud qui vont se présenter.
Donc Véronique, je suis la moitié d'Arnaud et nous on est mariés que depuis 24 ans et on a 6 enfants et pas de petits-enfants. Et on vient du Nord.
On me dit de le dire en anglais. But I think it's already translated. So we are married since 25 years. We have 6 kids, and 24, she said, and we still love one another after 24 years. That's good. Thank you, God.
Donc moi c'est Alexis. Hein? Alors je sais pas si on a tout le monde. Alors, on va commencer pour les groupes de. Traduction, est-ce que c'est organisé? Ça va, vous êtes...
Ouais. En polonaise, là-bas.
Donc il y a polonais, quelque part, non?
Au fond.
Hein? D'accord. Il y a anglais, néerlandais, puis vous, c'est autre chose?
Slovaque.
Slovaque. Ok.
Et pour ceux qui veulent, je peux traduire en ch'ti, hein?
Alors, on va commencer par confier à Marie, hein, ce parcours, il est important, il est touchant, je pense. C'est pas un parcours qui laisse indifférent. Et on est profondément heureux dans la joie, en fait, de vous accueillir. Et puis, on va, comment dire, vous donner autant d'amour qu'on peut de la part du bon Dieu. Alors, on va commencer par une petite prière pour que l'Esprit Saint passe dans nos cœurs, dans vos cœurs, dans mon cœur. Dans chacun de nos cœurs. Marie, tu as accueilli l'Esprit Saint à 100% et il a guidé ta vie et chaque minute, donc ben, nous te confions ce temps ensemble. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, on va s'embarquer dans un parcours de 3 jours. Hein. Comme on vous l'a dit ce matin, c'est important d'essayer d'être fidèle au parcours que vous avez choisi, peut-être spécialement pour ce parcours-là. Parce que c'est pas facile de tout dire en même temps et il y a vraiment un ensemble cohérent sur les 3 jours avec beaucoup de témoignages, un petit peu aussi quand même de théologie et je crois que c'est important de voilà d'essayer de rester même si ça vous paraît des fois un petit peu pas comme vous attendiez. Je crois que ça serait pas mal que vous fassiez l'effort de rester les 3 jours. Enfin, vous verrez. Alors aujourd'hui, le titre de la journée, ça s'appelle Une espérance dans les ténèbres, témoignage. Je vais commencer par poser un petit peu ce problème de la souffrance, du mal dans le monde. On va essayer de poser un peu les choses. Et puis on va commencer par regarder un peu quelques arguments, enfin quelques sources humaines, en fin de compte, d'espérance qui nous tiennent debout. Ensuite, on écoutera Anne qui va nous donner un témoignage qui est assez touchant sur ce qu'elle a vécu, puis la manière dont Dieu l'a sauvée, on peut dire. Et puis on reprendra quelques petits commentaires et ça nous fera une bonne première tranche aujourd'hui. Très concrètement, on a un petit panier qui est là. Tu peux me montrer peut-être pour tout le monde. Voilà. Alors pour l'instant, il est vide. Il est destiné à recevoir vos questions. On pense que vous êtes un peu trop nombreux pour qu'on engage un dialogue, disons, direct avec vous. Je crois que ça serait un peu difficile à gérer. Donc on vous propose de procéder par questions écrites. Par contre, comme c'est un parcours, on est très ouvert aux questions. Moi, je suis prêt à mettre au papier, au panier, la moitié de ce que j'ai préparé pour vous écouter et puis pour démarrer un dialogue avec vous. Donc, faites-le sous forme de petits papiers. Vous pouvez même venir là comme ça pendant que je parle. Moi, ça me dérange pas. Je suis pas formel du tout. Donc, vous venez, vous posez votre machin. Sinon, à la fin de ce petit topo demain, bon, puis on tâchera au fur et à mesure de prendre en compte vos questions. Le temps, j'ai vraiment réservé du temps dimanche pour vraiment essayer de répondre à vos questions. Mais si on sent qu'il y a des trucs qui percutent, qui sont vraiment importants, on va se laisser guider tous ensemble, hein, par l'esprit. Donc n'hésitez pas. Puis alors, il se peut qu'il y en ait parmi vous qui aient quand même des choses très lourdes à vivre, à porter. Donc on a prévu pour dimanche, enfin demain
soir, on aura une autre corbeille.
Voilà, demain il y aura une corbeille spéciale, on pourrait appeler ça une corbeille prière. Donc vous pouvez mettre dedans, déposer pour Jésus, ben, des choses qui sont vraiment lourdes dans vos cœurs, dans vos vies, dans vos familles. Et ça sera apporté à la messe, je dirais un petit peu de manière, une belle cérémonie, quoi, dimanche. Et comme ça, tous les jeunes pourront prier pour vos intentions. Elles resteront secrètes, bien sûr, mais on mettra cette corbeille devant l'autel, comme ça tout le monde sera en union avec vous. Ça restera le secret de vos cœurs, mais en même temps, voilà, c'est une petite démarche que vous pourrez faire. Donc on mettra cette corbeille demain. Voilà, je vais attaquer parce que il est déjà 3 heures. Hein. Alors on attaque. On entend cette question, parfois très douloureuse dans nos cœurs ou dans nos vies, si Dieu existait, pourquoi le mal? S'il était là, il n'aurait pas autorisé telle et telle chose. J'ai été impressionné parce que depuis quelques jours, enfin plutôt quelques semaines qu'on prépare ce parcours, ben on a finalement croisé pas mal de situations de détresse auxquelles je m'attendais pas. Il y a 3 jours, on a eu le coup de fil d'une amie qui a perdu un ami dans un accident de voiture, un jeune. Donc je me suis dit, on est en plein dans le sujet. Hein, on est en plein dans le sujet. Alors on va essayer d'avancer dans l'espérance, dans la confiance pendant ces 3 jours et puis de voir un peu ce que l'Esprit Saint peut nous donner comme lumière et surtout comme joie, comme paix autour de ces sujets. Alors je voudrais, pour lancer le truc, vous raconter un petit témoignage. Je voudrais vous parler d'un personnage que peut-être certains d'entre vous connaissent, un juif qui s'appelait Primo Levi, qui est mort maintenant. Et cet homme était écrivain et il a eu l'extraordinaire courage de survivre au camp de concentration pendant la dernière guerre. Donc il est sorti de ces camps, très meurtri, très touché. Et il a donné beaucoup de conférences, il a écrit des bouquins. Et il a eu cette phrase, alors c'est pas mot à mot, mais enfin c'est à peu près ça, il a eu cette phrase terrible. La simple existence des camps de concentration, le simple fait que ça ait existé, pour moi, c'est la preuve, ça bannit définitivement l'idée d'un Dieu d'amour. Il a dit ça. Il a dit, pour moi, le fait que les camps aient existé, ça prouve simplement que c'est pas pensable qu'il y ait un Dieu d'amour. Donc ça pose le problème. Cette phrase terrible pose le problème. Et on pourrait dire un peu la même chose, hein. On a vécu tous ensemble il y a encore pas longtemps ces drames en Norvège, hein, de cette espèce de fou là qui a tué des jeunes. On pourrait se poser la même question, mais que fait Dieu? Que fait Dieu? Alors on va essayer de répondre, en tout cas d'éclairer nos cœurs autour de ces mystères pendant ces 3 jours. Alors moi j'ai un profond respect pour cet homme, Primo Levi, j'ai un profond respect pour d'abord son courage, il a réussi à sortir des camps et il est sorti debout et c'était plus facile de se laisser mourir là-bas. Et puis j'ai un profond respect pour sa parole, c'est une parole humaine très profonde, elle est terrible mais c'est une parole humaine. Par contre, je suis obligé de constater qu'il a eu tort. Il a eu tort parce que vous êtes là. Il a eu tort parce que je suis là. Il a eu tort parce que l'Église est toujours debout. Il a eu tort parce que 90% de l'humanité croit peu ou prou en un Dieu, plus ou moins personnel, plus ou moins d'amour. Mais enfin, il y a quand même... La foi est restée. En fait, heureusement, il a eu tort, la foi est toujours là. Hein, et l'espérance tient debout. Et ça, c'est un premier point qui est quand même extraordinaire si vous y réfléchissez. L'objection est tellement forte qu'on ne devrait pas être là. et pourtant la foi est toujours là. Donc il y a quelque chose de plus fort qui traverse les siècles et qui fait qu'on est toujours accroché, puis que dans le cœur de l'homme il y a toujours cette confiance en un Dieu d'amour, et on peut presque se dire mais comment c'est possible vu tout ce que les hommes subissent, hein, et qu'avoir les guerres du XXe siècle ou les exemples récents, et pourtant la foi en Dieu d'amour est toujours là. Alors ça c'est déjà un premier point, bah, c'est une constatation qu'on voit, l'espérance a survécu. Et même si vous regardez chez le peuple juif qui a vécu toutes ces persécutions, bah, la foi est restée. Bon, pas tous, hein, mais il y a une foi encore extraordinairement solide chez ces gens. Donc là, il y a un secret qu'on va essayer de cerner. Alors parmi vous, ce qui est délicat, c'est qu'il y a deux sortes d'auditeurs parmi vous, puis on se connaît pas, on va essayer de se faire connaissance pendant ce temps. Il y a quelques-uns qui sont peut-être des un peu intellectuels, qui se posent des questions, qui se disent bah oui, comment c'est possible, dont la foi est un petit peu, disons, troublée, ou qui se demandent, mais ils ont une approche un peu distante, un petit peu intellectuelle de ces problèmes. Puis il y a sûrement parmi vous, c'est le secret de vos cœurs, des gens très blessés. Hein. C'est clair que parmi vous, il y en a qui sont profondément touchés, blessés par le décès d'un ami, une souffrance, enfin que sais-je. Et donc là on a face à nous ces deux types de personnes. Donc on va essayer de donner des éléments un peu pour tout le monde, mais on aimerait surtout être sensible au cœur blessé, hein. On va essayer de vous aimer le plus possible, de vous donner le plus possible l'amour du bon Dieu, et puis c'est lui qui va agir, hein. Donc ceux qui veulent une approche purement intellectuelle, ils la trouveront pas pendant ce parcours. Je vous donnerai quand même pas mal d'éléments, mais il y a des livres pour ça, j'en donnerai quelques-uns. On va surtout essayer de partager avec vous une compassion, un amour, hein. On va essayer de s'approcher ensemble du cœur de Jésus. Voilà. Alors ça veut dire que ce parcours, il va forcément vous déplacer. Vous allez bouger. C'est pas un parcours qu'on peut suivre en dormant ou en écoutant vaguement. Si vous voulez rentrer dans ce parcours, vous allez bouger. Parce que le problème de la souffrance, on peut pas avancer si on bouge pas. On peut pas avancer si on n'avance pas vers Dieu et si on change pas nos lignes, nos positions. Hein, donc vos positions vont forcément bouger pendant ce temps. Et alors ça veut dire que curieusement, c'est aussi un parcours intérieur. On vous propose pendant ces 3 jours un parcours de vie intérieure, parce qu'en fin de compte, il n'y a que Jésus qui peut vraiment venir nous guérir. Trop vite. Alors je vais essayer de ralentir un peu. Hein. Alors comme il n'y a que Jésus qui peut vraiment nous faire avancer, nous faire progresser dans cette vie intérieure, je vous propose qu'on fasse tout de suite une rencontre avec lui. On va tout de suite le rencontrer, on va le mettre tout de suite maintenant au cœur de notre cœur, et puis tout le reste, on fera ce qu'on peut. Alors je vais vous donner une petite technique que j'utilise. Bon, moi j'ai été longtemps ingénieur en électronique, maintenant je suis dans l'enseignement, mais j'ai une vie, on va dire, très très pleine. Alors j'ai développé une technique, j'appelle ça l'oraison flash. Alors on va s'en servir de temps en temps pendant ce parcours, hein, l'oraison flash. Je vais vous expliquer comment ça marche, c'est très simple. On va le faire ensemble, et puis de temps en temps pendant le parcours, je vous dirai, allez, un petit coup d'oraison flash, comme ça on va se connecter à Jésus. Alors le principe est simple, vous avez une lampe sur une table, tant qu'elle n'est pas branchée, elle est éteinte. Vous branchez la prise, vous allumez l'interrupteur, ça s'allume, voilà, il y a une connexion. Alors je vous propose, enfin ceux qui veulent, hein, on va tout de suite faire là maintenant une connexion avec Jésus. Alors levez la main ceux qui sont intéressés par une petite connexion rapide, flash, avec Jésus.
Ouais.
Bon, c'est bon. On devrait y arriver et prévenir. Voilà. Alors c'est tout simple, ça prend même pas une minute. Hein. On y va, vous êtes prêts? Ok, premier temps, on ferme les yeux. Alors je les ferme aussi. Hein. On ferme les yeux. Et on va se connecter à Dieu, à Jésus. Alors il n'est pas loin, il n'est pas dans le ciel, il n'est pas dans la terre, il est dedans. Dans votre cœur il habite. Voilà, ça y est, la connexion elle se fait. Jésus est dans votre cœur. Je crois en toi. Alors, vous pouvez le redire dans votre cœur, hein. Je crois en toi, je sais que tu es là. J'ai confiance en toi, je te donne toute ma vie. Et je sais que tu m'aimes. À Amen. Voilà. Petit coup d'oraison flash, on le fera de temps en temps. Ça sera peut-être en fait le plus important du forum. On verra. Enfin, du parcours. Bon, allez, on avance un peu. Le baratin, c'est bien. Alors, première notion. Je commence par un peu de philo. Moi, je suis un passionné de philosophie. Ça sera peut-être un peu théorique pour certains, mais je crois que c'est très important. Première notion de philo fondamentale. Si vous y réfléchissez bien, le mal, la souffrance, tout ce que vous vivez de difficile, c'est toujours une absence de bien. C'est jamais autre chose. Je prends la maladie, bah, vous êtes malade, ça veut simplement dire que les microbes qui sont en vous, les bactéries qui sont en vous, enfin bon, tout le bazar, il est en déséquilibre. Ça veut dire qu'il y a un manque d'harmonie, il y a un manque d'équilibre dans votre corps. Mais il n'y a pas un agent fondamentalement pathogène qui vous détruit. Il n'existe pas d'être qui soit intrinsèquement mauvais, ça n'a pas de sens. Hein. Le mal est toujours une absence, c'est toujours un désordre. C'est vrai dans la maladie, c'est vrai dans... Enfin, si vous réfléchissez à n'importe quel exemple, c'est vrai. Donc ça, c'est une notion extrêmement importante. Et moi, quand j'avais à peu près 14 ans, j'ai entendu une phrase de saint Thomas d'Aquin qui m'a fasciné. Il dit ceci, l'être est bon. Toute chose qui est bonne en tant qu'elle est, qu'elle existe. Hein. Et le mal, il intervient dans une brisure, dans un manque d'harmonie, dans une rupture, dans l'ordre des choses. Hein. Je roule en voiture, j'ai un accident, bah, il y a une rupture dans l'ordre des choses. Bon, ça s'appelle un mal. Mais c'est essentiel de se rendre compte que le mal n'existe que si le bien est déjà là. S'il n'y avait pas le bien en premier, il n'y aurait pas de mal possible. Hein. Alors, revoyez dans votre tête une situation de souffrance, une situation de mal, vous verrez que pourquoi ça fait mal ? Bah, ça fait mal parce que ça ne devrait pas faire mal. Ça fait mal parce que le bien est d'abord là. Hein. Donc ça, c'est une notion super importante. La souffrance, le mal n'existe que s'il y a un bien qui est préexistant. Et plus ce bien est intense, plus il est grand, bah plus la douleur est grande. Hein, si vous perdez un enfant, c'est beaucoup plus douloureux que si vous vous tapez sur le doigt avec un marteau. Pourquoi ? Parce que le bien perdu est bien plus grand. Et alors, c'est en creux, ça montre en creux l'importance du bien. Hein. Donc ça, c'est déjà une chose extrêmement importante. Alors, pour prendre une image, bon, moi j'aime beaucoup la physique. Vous savez peut-être que le blanc, c'est la somme de toutes les couleurs. Le noir, je ne sais pas si vous savez ça, mais le noir, c'est pas une couleur, c'est une absence de couleur. Ben, c'est exactement la même chose. Le mal, c'est une absence de bien, c'est un trou, c'est un manque de bien. Et le noir, c'est rien d'autre qu'une absence de couleur. La preuve, essayez de fabriquer un faisceau de lumière noire. Vous verrez que c'est juste impossible. Hein. Le noir, les projecteurs qui projettent du noir, ils projettent rien du tout. Ils s'abstiennent de projeter. Puis du coup, ben, au mur, on voit du noir si c'est noir. Mais on peut pas projeter du noir. Voilà. Donc c'est la même chose. Le mal, il a aucune substance réelle. Il n'y a pas d'être mauvais. Alors ça, c'est très important parce qu'en terre chrétienne, la réalité est bonne. Le monde est bon, Dieu est bon. Et ce qu'on observe, c'est des brisures, c'est des manques d'harmonie qui sont parfois très très douloureuses. Mais n'empêche qu'elles n'existent que parce que le bien préexiste. Ça, c'est fondamental en philosophie. Alors il y a des civilisations entières qui se constituent sur l'idée que le mal et le bien ont le même poids. Que c'est, on appelle ça le manichéisme. Hein, à l'extrême, il y a le dieu du bien, le dieu du mal. Si on y réfléchit sérieusement, ça n'a aucun sens. Le mal est simplement une absence de bien. Ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est que ça veut dire une chose, c'est que la victoire de la lumière sur les ténèbres, elle est simple. Il suffit d'allumer la lumière. Hein, dans une pièce, il n'y a même pas de combat. Vous allumez la lumière, il n'y a plus d'obscurité puisqu'elle n'a pas d'être. Elle disparaît dès qu'il y a la lumière. Et paradoxalement, dans nos vies, la victoire du bien est très simple. Elle est extrêmement simple. Dieu est très très simple. Dieu, c'est juste une source d'amour parfaite. Il suffit qu'il soit là, puis le mal disparaît simplement parce qu'il est là. Il n'y a même pas de combat en un sens. Alors elle n'est pas facile, elle est simple, hein, mais elle n'est pas facile dans nos cœurs à cause de l'orgueil. Elle n'est pas facile à cause du repliement sur nous. Et il faut parfois 50 ans pour arriver à être simple. Hein, mais c'est nous qui faisons les choses compliquées. La victoire de la lumière est facile. Alors, juste une petite histoire là-dessus. Ouais. Il y a, alors, ça veut dire que, alors, autre chose, oui, pardon, dernier point sur ce sujet. Ça veut dire que le bien devrait être premier toujours dans notre conscience, dans notre expérience de la vie. Alors, ce matin, on louait Dieu, hein, louange à toi, Seigneur, parce que tu es créateur, tu as fait toutes choses belles. Il y a une sorte de louange philosophique qui consiste à repérer que le bien est premier. Et on devrait laisser toujours notre vie s'imbiber de bien avant de s'imprimer de la souffrance. On devrait être beaucoup plus impacté, transformé par la joie des enfants qu'on a tous les jours. jours que par tel enfant qui est malade. Alors en même temps, il y a la compassion, on va en parler longuement, hein. Mais c'est quand même super important de voir qu'on a, on a besoin de retrouver ce sens du bien, ce sens du beau qui nous entoure, hein. Très souvent dans nos vies, on se contente d'un bonheur tiède et puis d'une grande sensibilité aux catastrophes. On devrait plutôt se réjouir tous les jours d'un grand bonheur passionné, et puis bon, vivre les catastrophes quand elles arrivent. Hein. Mais on crée parfois presque les désastres dans nos vies en les attendant, parce qu'on se dit, bon, ça va bien, mais qu'est-ce qui va me tomber dessus ? Alors, petit témoignage là-dessus, on connaît un prêtre qui nous a raconté ceci. Il a rencontré un vieux lord anglais sur la fin de sa vie, qui est venu le voir, et qui lui a dit, « Mon père, j'ai souffert énormément toute ma vie de maux qui ne me sont jamais arrivés. Hein, j'ai souffert toute ma vie de drames qui ne me sont jamais arrivés, parce que je me suis concentré toute ma vie sur ce qui risquait de me tomber dessus, puis j'ai oublié de vivre. » Donc ça, c'est un premier point bêtement philosophique de bon sens, hein. Concentre-nous déjà sur ce qui va bien, puis il faut en jouir au quotidien, quoi. Voilà. Tiens. Alors, ça j'ai vu. Ouais. Alors, je vais conclure sur ce premier point parce qu'il faut qu'on avance. Si vous réfléchissez bien, seule la présence lumineuse d'une source de bien peut expliquer le mal. S'il n'y avait pas d'abord le bien, si le monde n'était pas construit avec du bien, il n'y aurait pas de mal. On ne saurait même pas que les choses sont mal. On le sait parce qu'on est assoiffé de bien et qu'on est assoiffé de bonheur. Je ne prétends pas que c'est une réponse à tout, mais c'est déjà un élément qui est quand même important. Alors, deuxième chose, il y a eu ce tsunami au Japon. Il y en a eu un autre il y a quelques années en Inde, en Asie. Moi, la première chose qui m'a frappé, mais vraiment, quand j'ai entendu ce tsunami, quand j'ai entendu les réactions, il y a une réaction universelle dans le monde, et cette réaction, on peut la résumer de la manière suivante, c'est pas normal. Tout le monde a dit, c'est pas normal. Puis il y a eu une levée d'énergie, les gens sont levés, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut réagir, c'est pas normal. Alors, faut bien y réfléchir à ça, c'est extraordinaire cette réaction. Quelle santé morale, quelle santé psychologique. Tant que nous disons c'est pas normal, ben ça veut dire que justement nous mettons bien en premier et que nous sommes prêts à nous battre. Ce qui est terrible, c'est si on commence à passer de c'est pas normal à on s'en fout. Alors là, c'est grave. Hein. Ça veut dire on tombe, je dirais, dans une vision complètement pessimiste de la vie, dans une sorte de sélection naturelle. Bah, les Japonais, ils ont disparu, il y en aura d'autres. Voilà. Non, mais je veux dire, je pousse à l'extrême. Mais on n'est pas. On se rend compte que cette attitude, elle est destructrice. On se rend compte que cette attitude, elle détruirait tout. Donc c'est magnifique cette intuition de l'humanité, cette intuition du monde, c'est pas normal. Et mine de rien, c'est une sacrée preuve. Hein, comment dire, c'est un sacré indice ça, de l'existence de Dieu, parce que imaginez qu'on soit des cruches, hein. Ben on se casse, on s'en fout, quoi. On n'y penserait même pas. Alors que là, un drame qui arrive aux êtres humains, on est touché, on est prêt à se battre. C'est un aiguillon formidable pour l'action, c'est un aiguillon formidable pour l'amour actif, parce qu'on sait qu'on n'est pas fait pour ça. Et ça, gardez-le bien dans votre cœur, vous n'êtes pas fait pour le malheur, vous n'êtes pas fait pour la souffrance. C'est pas un truc normal. Et c'est extrêmement important de garder cette intuition dans nos vies. C'est l'aiguillon de notre combat. Hein. Et on connaît beaucoup de gens, sûrement vous, qui ne sont pas chrétiens, mais qui sont engagés dans des combats humanitaires, pour la faim dans le monde, pour je ne sais quoi. Le moteur qui les fait tourner, c'est cette intuition fondamentale, l'homme est fait pour le bonheur. Et ils ont raison, ils ont raison. Hein. C'est pas normal. Alors, le mal, pour résumer ce point, le mal est un scandale, hein, et c'est essentiel de le garder, ce scandale. C'est essentiel de pas réduire les choses et de dire, bon, il y a des explications. Non, c'est un scandale. C'est un scandale et l'homme n'est pas fait pour ça. Et ça, c'est essentiel pour construire notre vie. C'est le moteur de notre action, de notre amour. Ouais, là j'ai noté. Si on est fidèle à ce sentiment du bien, cette certitude que le bien doit s'installer, alors on peut changer les choses et on peut se changer soi-même. J'ai eu une conversation il y a pas longtemps avec une collègue de travail qui tourne pas très rond. Elle m'a dit j'ai aucune volonté, j'arrive pas à me battre, je me laisse couler, je construis rien dans ma vie. Alors on parle un peu, puis elle me dit mais je lui explique bon, je lui donne quelques pistes, puis elle me dit mais pourquoi j'essaierais de me battre, c'est naturel, je suis comme ça. j'ai pas de volonté. Donc en elle, enfin à ce moment-là en tout cas, était éteint cette espèce de sentiment qu'elle est faite pour autre chose. Elle avait admis en quelque sorte, c'est une sorte de résignation, elle avait plus le ressort pour se battre. Hein, parce qu'elle avait perdu cette intuition, mais je suis faite pour le bonheur, je suis faite pour autre chose. Et je peux me changer, et je peux changer le monde. Et ce matin, le père Pérou disait que vous étiez en charge du monde, hein, du 21e siècle, du monde qui arrive, mais vous pouvez le changer. Vous pouvez. Et la première chose, c'est d'être confiant que, voilà, que le monde est fait pour le bien. Bon, j'avance, hein, parce que je suis un peu bavard. Alors, dernière chose, imaginons, dernier point d'introduction, puis après je passerai la parole à Anne. Dernier point d'introduction, imaginons que tout va bien. Hein, c'est-à-dire que dans le monde, imaginons qu'on a réussi à résoudre tous les problèmes. Il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de faim, il n'y a plus de guerre, ça roule. Ben, je crois, et vous croirez aussi, que je me semble que dans vos cœurs, il y aura toujours une soif pour plus grand. Il y aura toujours une soif pour autre chose. Parce que vous sentez au fond de vous, vous êtes fait pour intense. Vous êtes fait pour une grande vie passionnante. Nous sommes faits pour vivre un grand amour. Vous êtes tous faits chacun pour vivre un grand amour. Et là, on retombe sur cette question du désir. Quel est votre désir? Je suis sûr que votre désir, c'est de vivre un grand amour. C'est de vivre passionnant, c'est de vivre grand, c'est de vivre debout. Et ça tombe bien parce que vous êtes faits pour ça. Et c'est ce que Dieu veut pour vous. Alors il faut être fidèle à cette intuition, à ce désir du grand amour. Je passe la parole à Anne pour un petit témoignage.
Voilà, alors je suis née d'une famille...
Drago.
Alors voilà, donc c'est un jeune, on a emmené un jour au JMJ à Rome, un jeune, on a emmené tout un quart. Et on était déjà amoureux. Et alors ce jeune, il est venu, il avait le blouson de cuir, boucle d'oreille et du H dans les poches parce qu'il se disait ça, je vais m'ennuyer. Mais il est venu quand même avec nous à Rome.
C'était pas cher.
Et nous, on se promenait dans Rome avec les 50 jeunes du quart. Et Alexis et moi, on se prend par le bras et puis on commence à dire nous on s'aime, le truc complètement idiot. Hein, idiot. Et on passe à côté de ce jeune et je l'entends qui dit « Moi aussi j'aimerais bien qu'on m'aime ». Alors je lui ai dit « Mais on t'aime ». On l'a pris par le bras et en quelques minutes on était 50 dans les rues de Rome à hurler « Nous on s'aime ». Et bien à ce moment-là, ce jeune a été bouleversé dans son cœur et il s'est converti. Ça a été... j'en ai des frissons d'y penser, ça a été pour lui un... Ça l'a bouleversé et là il a dit, ben, le Seigneur est grand. Et quelques temps après, il roulait en voiture, alors ce jeune il était technicien en électronique, et donc il allait au travail, et il avait mis la radio, et le matin à la radio, il y avait une émission... Ils interviewaient des enfants et ils leur disaient « Qu'est-ce que toi tu veux faire plus tard ?» Et lui, un matin, il entend un enfant de 12 ans qui dit « Eh ben moi, plus tard, je serai moine. » Et notre jeune, il a garé sa voiture et puis il a dit « Et moi, qu'est-ce que je veux être ?» Et il a dit « Moi aussi, je veux être moine. » Et aujourd'hui, il est moine et il est prêtre. Et voilà, un petit truc... Une soif qu'il avait au fond de lui, et le Seigneur a allumé l'étincelle, et sa vie a basculé. Voilà.
Ah, on applaudit le Seigneur. Alors, je résume tout ce que je viens de dire, là, puis on va écouter après alors le témoignage de Anne elle-même. Donc on a essayé de voir déjà quelques points. Hein. Le bien est premier, le mal n'existe que si le bien est là. S'il n'y avait pas de bien, il n'y aurait même pas de notion de mal. Si on n'avait pas le sens du bonheur, on n'aurait pas de souffrance. Et alors cette histoire de Drago, là, ouais, je voudrais la terminer en vous disant refusez de vivre médiocrement. S'il vous plaît, refusez de vivre médiocrement. Il y a peut-être des adultes qui vont vous dire, écoute, les rêves c'est bien, mais faut quand même être réaliste, faut voir ce qui est possible. Oui, d'accord. D'accord, il faut voir ce qui est possible. Il faut passer du rêve au projet, ça c'est vrai. Il faut être réaliste, d'accord. Mais refuser de vivre médiocrement. Refuser de vivre un petit amour. Vous êtes fait pour grand. Un homme peut témoigner, ça fait 32 ans qu'on est mariés, c'est possible. Vous êtes fait pour vivre un grand amour. Hein, voilà. Enfin bon, c'est un peu un autre sujet peut-être. Ouais. Donc, tous ces points, ça nous donne déjà des armes. Vous voyez, si vous avez dans vos vies des épreuves, si vous voyez du mal, si vous voyez de la souffrance, déjà là on a quelques petits repères qui nous permettent quand même de tenir debout. Et mine de rien, la plupart des gens ils ont que ça, parce qu'ils n'ont pas la foi. Mais c'est déjà très très fort. Hein, c'est déjà très fort. Alors, pour avancer plus loin, il faut que Dieu se révèle. Je crois qu'on peut pas aller tellement plus loin sans que Dieu vienne nous dire « Je t'aime ». Hein. Puis là, on peut bouger. Alors maintenant, on va écouter Anne, qui va raconter son histoire. Alors je vous demande je vous salue Marie-Pouenne. Puis je vous demande de bien écouter son histoire, vous verrez, c'est touchant. Et on va la porter dans la prière.
Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Voilà. Alors moi, je suis née d'une famille qui n'était pas catholique. Et j'avais un frère aîné. Mes parents nous ont beaucoup aimés, mais ils ont oublié de nous éduquer, ils ont oublié de nous élever. Quand j'ai eu 11 ans, j'ai fait du sport en compétition, et du coup, j'allais pas à l'école, je travaillais toute seule chez moi. Et donc j'ai grandi dans une très grande solitude. J'avais pas d'amis, pas de copains. C'était une drôle de vie. Et j'avais au fond de moi un désir, je voulais vivre un grand amour. Voilà. C'était mon rêve, mon désir. Quand j'ai eu 16 ans, mon frère m'a proposé de faire partie de son groupe de jeunes. Et son groupe de jeunes, on se sauvait par la fenêtre de sa chambre la nuit. On allait chez des voisins, on allumait un feu de bois et on se passait des joints de hache. Et voilà, alors peu à peu, moi, ma vie, c'était le sport, la solitude et puis la drogue. Hein, le hache, la marijuana, on a essayé le LSD, c'était... Voilà. Et on était un groupe de 20-25. On s'était promis de ne jamais toucher à l'héroïne. Voilà, donc pendant quelques années, ça a tenu. Il y a eu un soir où j'étais toute seule et je rentrais de boîte de nuit, j'ai été agressée par deux hommes qui m'ont violée, qui m'ont vraiment fait du mal, et je n'en ai parlé à personne, je n'avais personne à qui je pouvais parler. Je suis rentrée chez moi et personne ne s'est rendu compte de rien, et j'étais dans ma souffrance et dans ma solitude. Quelque temps après, un de mes cousins est venu nous rendre visite. Il venait de faire une retraite au foyer de charité de La Flatière, de Châteauneuf-de-Galore. Ce sont des retraites en silence, catholiques, et c'est très beau. Et il en a parlé avec beaucoup de flamme, et j'y suis allée tout droit. Je ne savais pas ce que c'était, mais j'avais vraiment besoin d'aide. Donc j'y suis allée tout droit, j'ai passé une semaine en silence, à écouter 6 heures d'enseignement par jour, je n'ai rien compris. Ils avaient un vocabulaire de fou qui n'était pas le mien, du style Pentecôte, Ascension, Assomption, Eucharistie. Il est mort sous Ponce Pilate. Je disais, ça doit être terrible de mourir sous Ponce Pilate. Vous voyez, donc je suis revenue, j'avais rien compris. Mais ça avait été un lieu où on m'avait acceptée comme j'étais. J'étais pas un cadeau. Et les gens étaient gentils, il y avait un sourire. Et il y avait le silence qui m'allait très bien. Voilà. Mais je suis rentrée de cette retraite et j'ai retrouvé les copains. On a retrouvé notre petite organisation de fêtards. En fait, on était des fêtards. Et moi, je croyais que c'était la vie normale. Je croyais qu'on devait vivre comme ça. On ne cherchait pas à avoir de métier. Nos parents ne s'intéressaient pas du tout à ça. Et puis, en quelques mois, plusieurs d'entre nous sont morts. Des accidents. Hein, on dit que c'est des accidents. Un jeune qui veut arrêter un train. Bon, c'est juste qu'il était un peu trop shooté. Il y en a un qui a eu un accident de voiture qui s'est tué. Sa petite amie était enceinte, elle a eu une grave blessure à la colonne vertébrale. Ils ont dû avorter pour pouvoir l'opérer. Et elle s'est retrouvée à l'hôpital et son ami était mort, son bébé était mort. Et elle avait des ennuis avec la justice parce qu'il y avait de la drogue dans la voiture. Vous voyez, bon, il y en a eu plusieurs comme ça qui sont morts. Jusqu'à une Nathalie qui avait 17 ans et qui est morte d'un mélange d'héroïne et de bière. On savait qu'il fallait pas mélanger l'héroïne et la bière. Il y a quelques-uns d'entre nous qui avaient plongé dans l'héroïne, c'était immanquable. Mais une fois qu'on a pris soit de l'héroïne, soit de la bière, est-ce qu'on sait qu'on prendra pas l'autre ? Hein, voyez ce que je veux dire ? Quand on s'est shooté à l'héroïne, on n'a plus l'esprit clair et on a soif, mais on boit une bière et elle est morte comme ça. Et son corps a été retrouvé 13 jours plus tard. Elle était dans sa chambre toute seule. Et les gendarmes ont trouvé 2 canettes de bière avec des empreintes différentes. Donc ils n'ont pas trouvé les petits papiers sur lesquels il y avait l'héroïne. Et ils cherchaient ces papiers, donc ils ont demandé que quelqu'un nettoie la chambre de Nathalie. Il fallait pas que ce soit les parents qui étaient vraiment cassés, donc ça a été moi. Je suis allée nettoyer cette chambre. C'était en plein été, il y avait beaucoup beaucoup de mouches. Les services de désinfection avaient mis des produits anti-bestioles, mais j'ai enlevé deux sacs plastiques de petites bêtes qui avaient mangé ma copine, quoi. Et ça m'a... Voilà, j'ai passé 3 heures dans cette chambre. Il y en avait partout, 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 dans les sacs, dans les poches, sous les chaussettes, il y en avait partout. Et je suis sortie de là, moi j'étais hagard, hein. Hagard. Et pendant 3 semaines, je ne pouvais plus rien toucher avec mes doigts. J'avais l'impression de sentir les bêtes sous mes doigts. Donc j'étais comme ça pendant 3 semaines. Personne ne s'est rendu compte de rien. Je n'en ai parlé à personne. Voilà. J'allais de trou en trou. Hein, la vie était dure pour moi. Et mon frère, à ce moment-là, a été arrêté en Algérie avec de la drogue dans sa voiture. Il a été mis en prison en Algérie. Et mon père, en allant le voir, a eu un grave accident de voiture. On a mis plusieurs jours avant de le retrouver. Il était dans un hôpital, plâtré de la tête aux pieds. Et personne ne parlait français. Quand on l'a ramené, les médecins nous ont dit « on ne sait pas s'il va s'en sortir ». Donc là, moi, j'avais plus rien. Vous voyez, toute ma vie, ma maman pétait les plombs complètement. J'étais dans un trou. Le Seigneur avait fait une brèche dans mon cœur et plus rien ne tenait de solide sous mes pieds. Alors je suis retournée à Châteauneuf-de-Galore, je suis retournée faire une retraite. Et là, le prêtre, le vendredi soir, a dit « Nous allons exposer le Saint-Sacrement ». Et il a dit cette phrase « Dieu sera là, présent pour vous sur l'autel ». Et moi, j'ai joué le jeu. J'y suis allée à 3 heures du matin, je me suis enveloppée dans une couverture, et je me suis mis le plus loin possible dans un petit coin que personne ne me voie. Et j'ai passé 3 heures à dire à Dieu la saleté de vie pourrie qu'il m'avait donnée. J'ai passé 3 heures à lui dire ras-le-bol, je ne peux pas aller plus loin, je n'irai pas plus loin, j'en ai marre. Qu'est-ce que tu fais si tu es là, tu existes? Moi, je ne peux pas aller plus loin. Eh bien, vous savez ce qu'il a fait. Pendant ces 3 heures, chaque fois que je disais un mot, il m'était sapé dans mon cœur. C'était peu à peu, mon cœur s'est rebâti, s'est reconstruit, et il m'a sauvée. Et quand je me suis levée, pour la première fois de ma vie, j'étais en paix. C'était une paix profonde. Et le lendemain, j'ai retrouvé un groupe de jeunes. Cette fois-ci, c'était un groupe de prière. Et il y avait Alexis. Ils étaient 7. Ils priaient 2 heures tous les soirs. Ils étaient fous de Jésus, fous de Dieu. Et le vendredi et le samedi soir, ils ouvraient un bar sans alcool. Et là, ils accueillaient les drogués et les clochards. Et il y en a un qui se mettait en adoration. Et les autres servaient des soupes gratuites, hein, 50 centimes, servaient des jus de fruits. Et moi, ça m'allait très bien, les drogués, les clochards, les pauvres, les petits. Et je vais vous dire, s'il y a dans vos cœurs une souffrance, s'il y a dans vos cœurs une pauvreté, s'il y a dans vos cœurs une brèche énorme, un trou, que vous avez l'impression de vous noyer, que vous avez l'impression d'être perdu, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Cherchez du secours. Ne restez pas seul. Parlez. Ici, vous avez tous les moyens que vous voulez de parler. Il y a des personnes qui sont formées en écoute, accueil. Vous pouvez aller les voir, il y a des prêtres. Il y a Jésus, il y a l'adoration. Vraiment, toutes les chances vous sont données. Ne restez pas seul avec votre détresse. Et vraiment, pendant ces 3 jours, on va tout faire pour vous donner des moyens, des armes, pour que ces blessures ne vous abattent pas. Voilà. Le Seigneur vous appelle à vivre un grand amour. C'est le message que j'ai pour chacun de vous. Le Seigneur vous appelle à la paix intérieure. Le Seigneur vous appelle à une joie profonde. Et la souffrance ne vous empêchera pas de vivre ça. Ce sera un tremplin. Ce sera un tremplin. Vous êtes sur un trampoline. La souffrance que vous avez au fond de vos cœurs, elle va vous faire vivre un amour, une paix et une joie incommensurables. C'est un chemin qui n'est pas facile. Mais merci Seigneur pour ce chemin.
Alors, je crois qu'on va faire un petit coup d'oraison flash, hein, parce que là, je ne sais plus trop comment redémarrer. Donc, on va laisser ça descendre dans nos cœurs. Alors, on ferme nos yeux et on se connecte à ce Dieu, ce Jésus qui est en nous, qui vit en nous. Seigneur, je crois que tu es là. Seigneur, j'ai confiance en toi, je te remets tout. Seigneur, je t'aime. Amen. Alors, je vais quand même donner quelques petits échos à ce témoignage de Anne. On pourrait arrêter là presque, hein, mais je sais pas qu'est-ce qu'on fait. Ouais, je vais quand même donner quelques petits éléments pour vous. Je sais pas s'il y a vraiment besoin de vous nourrir après ce témoignage, mais quand même quelques échos. La première remarque, moi qui m'a percuté quand j'ai entendu cette histoire, parce que je l'ai découverte comme vous il y a longtemps, je me suis dit, mais c'est quand même étonnant, les souffrances, les épreuves, en fait elles peuvent avoir 2 effets. C'est trop simple de dire la souffrance me prouve que Dieu n'existe pas, parce que là on observe exactement le contraire. Et en fait, les épreuves, ces blessures de nos cœurs, on constate, hein, je tâcherai de donner des explications, mais d'abord on constate, elles peuvent avoir deux effets. Soit elles durcissent nos cœurs, elles troublent notre foi, elles nous éloignent. Soit au contraire, elles nous ramènent vers Dieu. Elles ouvrent une brèche, comme a dit Anne si bien, et de cette brèche, l'amour jaillit et notre vie se transforme. Et on se rend compte que, en quelque sorte, on a un immense malentendu avec Dieu. Parce qu'on aimerait bien qu'il soit gentil. On aimerait bien qu'il soit bon au sens bon papa, qui nous dérange pas trop, quoi. On aimerait bien qu'il nous propose une vie confortable, une vie tranquille, une vie sécurisée, une vie sans surprise. Seulement, ça l'intéresse pas du tout. Il n'est pas intéressé par l'immobilier, le bon Dieu. C'est un nomade. Lui, ce qui l'intéresse, c'est qu'on vive un grand amour. Ce qui l'intéresse, c'est ça votre problème, c'est ça mon problème, c'est que rien, il y a qu'une chose qu'il veut, c'est qu'on devienne des saints. Et nous, on aimerait bien être un peu moins aimés. On aimerait un peu moins. Mais c'est pas le plan. Le plan de Dieu, c'est qu'on vive au-delà de ce qu'on imagine pouvoir vivre. Alors c'est pour ça qu'il nous laisse pas tranquille. Et parfois, il faut ces épreuves, il faut ces brèches invraisemblables pour que tout d'un coup on se réveille et puis qu'on se dise mais quelles sont mes priorités ? On en parlait hier ou ce matin, je sais plus. Et qu'on se rende compte tout d'un coup de ce que Dieu attend de nous. Moi, franchement, personnellement, je vais être honnête, si tout allait bien tout le temps dans ma vie, mais le bon Dieu, personnellement, je l'oublierais. Je le mettrais dans un coin parce que ça fait bien dans mon tableau intellectuel. S'il n'était pas là, j'arriverais pas à croire à tout ce que je connais en science, en physique, en électronique. Je pourrais pas croire que tout ça fonctionne s'il n'y avait pas un Dieu. Donc je le mettrais dans mon univers intellectuel, mais je m'endormirais, je progresserais plus. Si je me prenais pas une baffe de temps en temps, je m'arrêterais. En tout cas, moi, c'est ce qui me frappe. Je vais pas rallonger. Anne a déjà bien parlé, mais moi, j'ai connu certains épisodes dépressifs, enfin un peu difficiles dans ma vie. Je suis obligé de constater j'ai jamais crié aussi intensément au secours qu'à ces moments-là. Quand tout va bien, je me dis c'est bon, quoi. Je crois en Dieu, mais je me débrouille tout seul. Mais quand c'est la détresse, quand on a envie de pleurer rien qu'à l'idée qu'il faut planter un clou dans un mur, puis qu'on peut plus, parce qu'on a, la volonté est malade, on peut même plus faire ça. Là, je vous garantis, on crie au secours, puis tout d'un coup, notre cœur fonctionne. Et notre cœur de pierre, peu à peu, devient un cœur de chair. Voilà. Donc les épreuves, parfois, c'est sacrées occasions de changer. Alors, deuxième point, dernier petit commentaire. Moi, je me suis souvent, comme vous, posé cette question, mais comment... Si j'étais Dieu, j'aurais pas organisé les choses comme ça. Quand je vois la fin dans le monde, quand je vois le tsunami, quand je vois la Norvège, là, quand je vois toutes ces horreurs, je me dis, si j'étais Dieu, je ferais pas comme ça. Autrement dit, qu'est-ce qu'on fait ? On convoque Dieu au tribunal de notre propre cœur. C'est-à-dire qu'on prend le peu d'amour qu'on a dans notre cœur, puis avec le peu d'amour qu'on a, on convoque Dieu. Puis on lui dit, mais Dieu, tu sais ce que c'est, mais comment tu t'y prends là ? Regarde, moi je peux t'expliquer comment il faut faire pour aimer. En fait, c'est ça qu'on fait. Et alors, il y a une chose qui m'a énormément éclairé, c'est de me rendre compte que les cœurs les plus aimants, et beaucoup plus aimants que moi, c'est les moins révoltés et c'est les plus efficaces dans l'amour. Malheureusement, elle est décédée, mais avant, on avait Sœur Emmanuelle qui venait régulièrement à Paris, et c'était extraordinaire. Elle avait 80, la dernière fois qu'on l'a vue, elle avait quoi, 97 ans, je sais pas. Alors elle arrivait, bonjour jeunesse. C'était fantastique. Et elle avait un cœur gros comme une maison. Et alors elle, parce que pour nous, je sais pas vous, mais moi, la fin dans le monde, c'est un peu de la théorie quand même. Je vois des photos, mais j'y suis pas. Elle y était tous les jours. Et elle voyait elle nous a raconté des histoires terribles d'enfants qui mouraient à deux pas de sa porte. Donc elle, c'était du concret, du quotidien. Elle avait pas une once de révolte. Elle était que amour, que action, que engagement, que compassion et que joie. Peine et compassion, elle pleurait avec ceux qui pleurent, mais en même temps, une joie, une force, mais elle nous mettait une pêche avec ses 97 ans, on ressortait là gonflé pour 6 mois. Donc les gens qui ont le plus de cœur, ceux qui sont le plus pleins d'amour, ils ont trouvé un secret que moi j'ai pas encore trouvé, que je commence à trouver un petit peu. Alors c'est ceux-là qui m'intéressent, parce que ceux-là, ils peuvent témoigner, ils sont encore plus sensibles que nous à la souffrance, parce qu'eux, ils ont le cœur qui font fonctionne. Une sœur Emmanuelle, quand elle voit un enfant qui meurt, pour elle, c'est un truc, mais insoutenable, parce que son cœur, il est 10 fois grand comme le mien. Et pourtant, elle a confiance en Dieu. Et pourtant, elle aime, et elle agit, et elle fonctionne. Et elle reste debout. Elle reste debout. Alors, je sais pas, moi, j'ai décidé de plus avoir de confiance dans mes intuitions de mon cœur à moi. Je préfère le sien. Je préfère le cœur de Mère Teresa. Je préfère le cœur de la Sainte Vierge, qui sont des cœurs tellement aimants, et eux, ils ont trouvé la solution. Alors, on tâchera de comprendre quel est leur secret, hein. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont réconciliés avec Dieu. Ils ont confiance dans le Dieu d'amour, malgré tout ce qu'ils voient. Ils savent que le bon Dieu n'est pas comme ça. C'est leur ami, c'est les amis de Dieu. Et du coup, ils aiment. Hein. Et du coup, ils agissent. Alors, on va... ouais. Alors, je vais terminer par une petite chose. Puis après, je passerai à la parole à Anne qui introduira la journée de demain. Au début de ce topo, on a parlé de Primo Levi qui a survécu au camp de concentration. Avec un admirable courage, il est resté debout, mais il a perdu la foi. Et non seulement la foi, mais l'espérance. Il est sorti complètement détruit. Alors un jour, il y a un écrivain polonais, peut-être que quelqu'un des Polonais connaissent, là, Maria Winowska, elle avait un ami, qui lui a dit « Toutes tes histoires de bondieuserie, c'est très bien, mais si tu me montres un saint qui a vécu dans un camp, et qui est resté saint, et qui a gardé confiance en Dieu, alors peut-être je croirai. » Alors Maria Winowska, elle a dit d'accord, et elle a écrit l'histoire du père Kolb. Alors le père Kolb, ça tombe bien, il nous accompagne, il y a son blason dans la grande tente. Vous verrez, il y a tous les saints qui nous entourent, il y a le père Kolb à l'entrée, là, enfin vous chercherez si vous voulez. Alors peut-être que quelques-uns connaissent son histoire, mais en deux mots, c'était un franciscain qui a été interné à Auschwitz, donc dans les mêmes conditions que Primo Levi. Mais à la différence de Primo Levi, il a eu, alors c'est très mystérieux, mais il a eu la grâce que ce lieu devienne un lieu de croissance de son amour et de sa foi. Et ça a culminé d'une manière extraordinaire, puisqu'il y a eu un moment où il était dans le camp, enfin, ceux qui connaissent pas, je raconte, il était dans le camp, et puis il y avait eu des évasions, donc les nazis voulaient faire des victimes pour punir. Et donc ils ont tiré au hasard des gens dans le camp pour les faire mourir, en plus c'était pas rien, c'était mourir de faim, dans le bunker de la faim. Et il y a un homme, un Polonais, qui est encore vivant, qui s'est approché, qui a été tiré au sort, puis il est tombé à genoux, il a hurlé de détresse, il a dit « je suis un papa, j'ai des enfants, je veux pas mourir ». Et Père Kolb était là. Et dans son, je suis ému pour raconter ça, dans son cœur il a pris la décision, il s'est avancé, il a dit « je veux ». J'arrive plus à raconter. Je veux mourir à la place de cet homme. Hein. Je veux mourir à la place de cet homme. Et alors le chef du camp était tellement sidéré par cette demande qu'il a accepté. Alors que normalement il disait toujours non à tout par définition. Il a accepté parce qu'il pouvait même pas comprendre cette demande. Et alors le père Kolb est mort, et il est effectivement mort à la place de cet homme. Et il y a eu des choses très très étonnantes parce qu'on les entendait chanter dans le cachot où ils sont morts de faim. Puis peu à peu les voix se sont éteintes parce qu'il a réussi à parler de l'amour du bon Dieu dans ce cachot. Et les voix se sont éteintes peu à peu et en fait il n'est pas mort lui là parce qu'il a survécu tellement il était, je sais pas, confiant en Dieu. Il n'était plus qu'un squelette mais il survivait. Et finalement les nazis ont dû rentrer dans le cachot et le piquer pour qu'il meure parce que il tenait quoi. Il tenait parce qu'il était pur esprit. Purement accroché à Dieu. Alors, je trouve que c'est un témoignage extraordinaire qui fait contrepoids à cette terrible phrase de Primo Levi du début. Hein. L'amour est possible même dans les camps. Et non seulement il est possible, mais il s'est passé quelque chose dans ce lieu, dans le cœur du Père Kolb, qui révèle une dimension de Dieu, une capacité d'amour chez les humains qu'on n'aurait jamais soupçonné. Moi, je suis fier d'appartenir à la race de cet homme-là. Hein. Je suis fier d'appartenir à la race de Primo Levi, parce qu'il est sorti debout. Et moi, je crois que je me serais plutôt laissé mourir. Lui, il est sorti debout. Mais je suis encore plus fier d'appartenir à la race du Père Kolb, qui a su transformer cette immense épreuve intérieure en une victoire. En une victoire. Voilà. Alors. Mais non, c'est l'histoire d'un mouton. Non, c'est l'histoire d'un mouton. Alors, on va. D'abord, je vous donne 2-3 petits conseils pratiques. Et puis ensuite, Anne vous introduit par une petite histoire. Elle vous introduit la journée de demain. Je vous propose quelques petits conseils pratiques. Premièrement, si vous avez des épreuves très lourdes dans vos vies, hein, comme a dit Anne, il ne faut pas rester seul. La première chose que vous pouvez faire, c'est les écrire. Prenez un papier puis écrivez-les. Ça vous aidera à objectiver les choses. Éventuellement, ça peut vous aider à en parler à quelqu'un. Mais même si vous ne le faites pas, au moins vous les aurez sorties de vous-même. Vous les aurez écrites. Hein. Et puis tâchez de les abandonner à Jésus. Si vous avez une valise pleine de trucs lourds, si vous demandez à quelqu'un de vous aider à la porter, il y a un moment, il faut lâcher la poignée. Vous ne pouvez pas tenir une valise à deux. Et ben, une fois que vous avez écrit ces épreuves, s'il vous plaît, mettez-les dans une valise, enfin dans votre tête, et laissez la poignée à Jésus. Lâchez la poignée. Lâchez la poignée. Laissez-le porter cette valise à votre place. Et puis faites un peu d'oraison flash. Je vous garantis, je peux témoigner, si vous en faites, allez, deux fois par jour, votre vie va être totalement transformée, parce que vous allez vous connecter à Jésus. Et en fin de compte, il n'y a que cette réponse qui existe. Allez, je vous passe à Anne qui va vous raconter une petite histoire pour vous changer les idées, puis elle introduira la journée de demain.
Voilà, alors un jour, on...
Ton pied.
Un jour, on... Ah oui, c'est une histoire vraie, hein, c'est pas une blague. Un jour, on roulait sur la route du col de l'Isle-la-Croix-Haute. Alors, c'est une route comme ça qui serpente dans les montagnes. Et on était dans un gros break avec quatre enfants derrière. On était à 90, on suivait très strictement les limites légales. On était à 90 sur 7, comme toujours. Donc, on était vraiment, on roulait très bien. Et c'est une route quand même de montagne assez étroite. C'est Alexis qui conduisait. Il y avait des virages. Et il voit venir dans son rétro, dans le rétroviseur, il voit venir derrière deux motos. Et il y a un camion qui était au loin, qui arrivait vers nous. La première moto a doublé, sans problème. Et quand la deuxième moto a voulu nous doubler, le camion nous a croisés. Et ça ne passait pas. Il n'y avait pas de place pour la voiture, la moto et le camion. Et
je précise qu'on était dans un virage. Le gars, je me rappelle, je vois encore, je tournais à droite, il y a la moto qui était à côté de moi et puis le camion qui arrivait en face. Bon, moi j'ai fait beaucoup de motos, donc Anne va vous raconter ce qui s'est passé.
Donc, on s'est retrouvés à trois comme ça et le motard a vu que ça ne passerait pas. Et il s'est serré contre nous tellement fort que le cale-pied de la moto, vous voyez, le cale-pied, s'est coincé sous notre voiture. Il s'est coincé, nous, on a senti un gros choc à la voiture. Le cale-pied, j'espère que vous arriverez à traduire. Hein. Il s'est coincé sous le châssis de la voiture. Il a fait un trou à notre voiture, il s'est coincé là. Et Alexis, heureusement, n'a pas donné de coup de volant. Et très doucement, il a emmené la voiture jusqu'à une aire de repos. Il a emmené la voiture jusqu'à une aire de repos. Le camion est passé, le motard n'est pas tombé. Mais on a eu très, très peur. Et le motard a eu très, très peur. Alors cette histoire, je tenais vraiment à vous la raconter. Parce que parfois, on se prend la souffrance en pleine figure, comme un camion. Parfois, on se dit, ça ne va pas passer. Je ne vais pas m'en sortir. Ce qui m'arrive dessus, c'est trop gros pour moi. Vous voyez, parfois, on se dit, je n'ai plus de chance. Et en fait, si on se coince vers le Seigneur, si on s'appuie sur lui, si on se jette dans ses bras, si on parle à des frères et des sœurs de communauté, si on ouvre nos cœurs, on s'en sort. Le Seigneur nous emmène sur une aire de repos et là il nous dit, tu l'as échappé belle. Aujourd'hui, tu profiteras de la vie encore plus qu'hier, parce que tu l'as échappé belle. Et j'étais sur toi, et j'ai veillé sur toi. Et il n'y a pas un moment de ta vie où je suis loin de toi. Il n'y a pas une seconde de ta vie où je ne t'aime pas. Je t'aime plus que tout. Ça, c'est le programme de demain.
Voilà, donc je vous en dis pas plus. Demain, on essaiera de comprendre le secret des saints. Hein. Alors, donc, question-réponse, c'est un peu tard. Question, vous n'hésitez pas, vous mettez vos petits papiers dans le panier. On verra si on les traite demain ou dimanche. Rendez-vous donc même heure, demain, même lieu. En principe, on a prévu qu'il ne pleuve pas, donc ça devrait être bon. Et puis on est disponible. Alors tous les quatre, Arnaud et Véronique, n'ont pas dit grand-chose, mais on a beaucoup partagé avant, ils ont pris avec nous, donc on est disponible tous les quatre. Ils ont l'expérience aussi d'accompagnement, d'écoute. Hein, bon. Donc on est disponible. Si vous nous voyez, là, n'hésitez pas, vous nous tombez dessus. Si vous avez envie de parler, on sera par là. On fait que ça, en fait, pendant le forum, on est disponible pour ça. Et rendez-vous demain. Et puis, s'il vous plaît, priez les uns pour les autres. Hein. Faites ces petites oraisons flash. Priez les uns pour les autres qu'on avance tous. Qu'on avance. Amen. Allez, bonne fin d'après-midi. Merci, à demain.